Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Entre héritage familial, culturel, spirituel, philosophique et scientifique, la quête de sens est omniprésente chez l'être humain. La vie est-elle une suite logique de cause à effet ou une force invisible plus forte que nous nous guide-t-elle? Installés dans un état de conscience profond, entre le sommeil et l'éveil, nous entendons des personnes en réflexion autour de l'existence d'une vie après la mort, de la notion d'âme, d'expérience d'exorcisme, de théories mathématiques, des révélations chamaniques ou de rejet de toute pensée mystique.
Que tu crois, une réalisation radiophonique de Julie Michaud et Nora Elali.
Tous les jours, pas pour Dieu forcément dans une église, mais pour tout ce que je peux, pour le vivant, pour l'air, pour le feu, pour des animaux, pour des situations. Je prie.
Ashhadu an la ilaha illallah.
Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je suis prête à tout. J'accepte tout. Car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi.
Mille gouttes d'eau et la terre fleurit. Vive les torrents, les fleuves et les rivières. Vive les torrents.
Faut vraiment se concentrer et y croire. Et chaque fois remercier. Chaque fois remercier, autrement ça sert à rien.
Mille gouttes d'eau et la terre fleurit. Vive les torrents, les fleuves et les rivières. Vive les torrents, ils vont jusqu'à la mer.
Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose d'apaisé. Et la croyance, c'est quelque chose à laquelle tu t'accroches. C'est quelque chose auquel tu penses que tu as besoin.
En flamand, spiritualité, un autre mot, c'est zenhaving. C'est donner du sens. Et je pense qu'on est tous éperdument à la recherche de donner un sens en fait, à quelque chose qui n'en a pas.
Parce que est-ce que la spiritualité, c'est Dieu? Je crois pas, en fait. Je comprends rien à tous ces mots.
La spiritualité, c'est ce que la conscience peut élaborer autour des choses de l'invisible. Les choses qui se passent que dans nos têtes. Les choses qui n'ont de valeur que dans les histoires qu'on se raconte. Et la foi se rapporte très fort à la confiance. La confiance qu'on peut porter de manière généreuse et gratuite à l'inconnu.
C'est la même chose. Si vous croyez, vous avez la foi. Hein. Si j'ai la foi, je suis croyant. Ça, c'est pour moi, ça ne fait qu'un.
Chez nous, on était athées, on ne parlait pas du Seigneur. Et juste, je pense que ça m'intéressait. C'est moi qui ai été cherché. Oui, j'ai toujours eu des rêves et un monde imaginaire très, très présent, très développé. Et même si on n'était pas croyant, pratiquant dans nos dans notre famille, il y avait quand même ma marraine qui allait à l'église. Et parfois, je l'accompagnais et je regardais, j'écoutais juste le son, la vibration qu'il y a dans les églises. Le fait d'être tous ensemble, l'un à côté de l'autre, de se donner la main à un moment ou à un autre et de dire des jolies choses. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, c'est un bon sentiment.
J'ai eu une éducation catholique, voilà. Ma mère était croyante, ma mère, oui, évidemment. Mon père, pas du tout. Ça, c'était, non, lui, voilà. Pour moi, il ne croyait pas. Il n'allait nulle part, jamais, jamais, jamais. Et par contre, à son décès, ben, on a retrouvé sur lui des médailles de la Sainte Vierge, de certains saints, par contre. Et ça, ça m'a étonné. Je les ai toujours, d'ailleurs. Venant de sa part, ça m'a étonné. Ben oui, du côté de ma mère, mes grands-mères, ben oui, j'ai vécu dans le catholicisme, entre parenthèses. Oui, j'ai été élevé là-dedans. On était obligé d'aller tous les jours, à la messe basse, à 7h du matin, et on avait catéchisme pendant une demi-heure, on revenait et on allait à l'école. C'est obligatoire. Autrement, on ne faisait pas sa communion à l'époque. Hein. Mais moi, à partir du moment que c'est une obligation... Voilà.
Ben, y a pas d'héritage familial. Il y a toujours un héritage, mais c'est plutôt une interdiction de croire. C'est-à-dire que mes deux parents, ils sont très cartésiens, mais même, enfin, j'aime même pas tellement ce mot, je sais pas, mais ils sont surtout anti. Anti-religion, très de gauche, anti-catholique. Mais ma mère, c'était une interdiction et elle me montrait les gens qui croyaient comme si c'était des gens ridicules. Et. Et du coup, c'était complètement interdit de croire en quoi que ce soit. C'était pas possible. Et moi, j'avais besoin et. Mais j'avais ce modèle. Je pense clairement que c'était les parents de ma meilleure amie, enfin une de mes meilleures amies, qui était catholique, pratiquant. Et elle les montrait, elle m'expliquait que les gens qui croyaient, c'était pour se rassurer. Mais quand on était fort, on n'avait pas besoin de se rassurer. Et du coup, croire, c'était être faible.
Je croyais que je pouvais rendre les feux rouges verts ou les feux verts rouges. Ça marchait toujours. Il suffisait d'attendre un peu.
Mais j'ai mis du temps à comprendre ça, mais j'avais le droit de croire au Père Noël. Je peux pas remettre en question cette interdiction de croire. Alors j'essaye vaguement à des endroits ou d'aller dans des choses plus qui sortent des cadres quand même de la croyance, de l'assouplir, mais au fond de moi c'est ils ont fait du bon boulot.
Mes deux parents sont catholiques, pratiquants, donc j'allais à la messe avec eux le dimanche étant petite. Donc j'ai été au catéchisme, j'ai fait ma première communion. Et ensuite, j'ai décidé d'aller à l'aumônerie quand j'étais au lycée aussi, étudiante. Donc je pense qu'effectivement, j'ai grandi dans une famille catholique, mais on peut pas dire que la foi était si présente que ça au quotidien. En tout cas, elle n'était pas au cœur de nos vies. Pendant de nombreuses années, j'étais assez tiraillée par le doute. Et maintenant... La question du doute ou de la foi se pose moins. C'est plus une tension qui n'est plus entre l'existence au nom de Dieu, pour moi en tout cas, depuis 2-3 ans. C'est plus une tension entre le fait vraiment de se livrer, de suivre le Christ avant tout, ou contre, je sais qu'il existe, mais en même temps j'ai envie de préserver ma vie telle qu'elle est, parce que je la maîtrise, et que c'est satisfaisant de vivre dans le monde. J'y trouve aussi, un confort, un certain intérêt. Alors que bon, je sais bien que si je décide de vraiment avancer vers le Christ, il ne s'agit pas forcément de renoncer, je ne vais pas être changée, ce sera toujours moi. Mais il y a toujours cette crainte, et pourtant je sais bien que l'horizon auquel il appelle est beaucoup plus beau, et donc il faut juste être apaisé et lui faire confiance.
Comment dire, il y avait deux choses différentes. Il y avait la transmission en fait de la culture, mes deux parents sont marocains. Et dans cette culture-là, la foi et la culture sont fort liées. Les moments de partage, que ce soit mariage, anniversaire, il y a toujours un peu de religion ou de spiritualité liée à ça. Et puis, il y a l'apprentissage aussi, l'apprentissage concret. Et donc, moi, j'ai fait l'école coranique, l'école arabe, à côté de l'école normale, où j'ai appris, en gros, les dogmes, de comment ça, tous les trucs un peu qu'il faut apprendre, genre un catéchisme de l'islam, quoi. Qui était aussi lié, ce qui était rigolo, c'est que c'était lié à l'apprentissage de la langue. Donc du coup, c'était le lien entre la culture arabe, savoir d'où tu viens, était lié à la religion pendant très longtemps.
Je viens d'une famille un peu... Est-ce que c'est atypique ou justement typique? Ou quand mon père vivait, c'était vraiment pas safe. Donc je me souviens avoir eu beaucoup peur. Et alors, à ce moment-là, je priais, moi qui ne viens pas d'une famille catholique, mais je priais vraiment pour qu'une force supérieure vienne et pour que mon père arrête de boire. Ça ne marchait pas à tous les coups, en tout cas. Mais j'ai, de temps en temps, vécu des choses où je me suis dit, oui, il y a quelque chose de plus grand que moi, qui est pacifique et qui veille, en fait. Comme j'ai pas eu d'endoctrinement, si je puis dire, religieux, avec des dogmes, je crois que j'ai un peu gardé cet esprit magique de l'enfant. Et moi, quelque part, j'ai eu des cours de religion et je trouvais magnifique toutes ces histoires de l'Évangile. En tant qu'enfant, je trouvais ça vraiment très beau. Et j'en ai beaucoup voulu à mes parents, que je trouvais pas normaux, de ne pas aller à l'église. Et tous les soirs, moi, je me mettais à genoux et je priais. Je me souviens de ce que je disais, c'est je terminais toujours par « et que tout le monde soit heureux ». Et en même temps, je n'osais jamais dire que moi, je sois heureuse, mais je m'incluais dans le truc. Et je me souviens être à genoux et toujours prier pour que quelque chose ne se passe pas, au lieu de prier pour que quelque chose se passe. Sauf une fois où j'avais 11 ans et j'étais vraiment en quarantaine, si on peut dire, parce que j'avais une hépatite et j'avais un petit chien, un petit caniche, et ce caniche avait disparu. Et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et tous les soirs, je priais pour que Lady revienne. Après 3 mois, elle est revenue. Et là, j'ai dit, mes prières ont été entendues.
Ah, vraiment, un bonheur. Ça me touche encore maintenant, en fait. Mais vraiment, un truc comme si la magie existait. Comme si... Ben, je me suis alors approprié la croyance, puisque c'est de ça qu'on parle. Celui qui veut, il peut. Donc si tu mets vraiment de l'énergie dans ce que tu veux, ben,
ça viendra à toi. Avec tout ce que ça a comme conséquence, hein, qu'il faut vraiment bosser pour avoir quelque chose. J'étais très reconnaissante que ce soit arrivé.
Moi, j'ai décidé de me détacher de ça. Vers mes 14-15 ans. Le premier pas, ça a été arrêter de faire le ramadan. Parce qu'en fait, c'était la seule chose que je faisais je priais, déjà, je priais pas. Et le dernier lien vraiment dogmatique, contraignant, c'était le ramadan. Et à un moment donné, à 14-15 ans, je me suis dit, putain, à midi, j'ai faim, qu'est-ce que je me fais chier? Parce que ça voulait pas dire grand-chose pour moi. Et voilà, je me suis acheté un sandwich. C'est pas que j'adhérais pas, c'est que ça avait pas de sens. Je voyais pas le lien entre le fait de pas manger la journée et Dieu. Je voyais de la contrainte là-dedans et je voyais pas le bénéfice. Et en même temps, quand j'étais tout petit, je me rappelle que c'est ce qui m'attirait. C'était les rituels, mais qui étaient presque, comme on n'en parlait pas beaucoup, de l'ordre un peu, c'est un peu magique, quoi, tu vois. Je m'en rappellerai toujours, pour en revenir au ramadan. Il y a un truc spécial, qui est le dernier repas avant que le soleil se lève. Et en arabe, on appelle ça suhur. En arabe, suhur, ça veut dire aussi magie. Et donc, moi, je voyais mes sœurs se lever, parce qu'on dormait tous dans la même chambre à ce moment-là. Je voyais mes sœurs se lever à 3-4 heures du matin, mes parents qui venaient les chercher, hein, tout doucement, pour pas me réveiller, tout ça. Et ça murmurait, puis ils descendaient. Et donc, moi, j'imaginais un truc de ouf, quoi. Et donc, j'étais là, putain, mais moi aussi, j'ai envie. Et donc, du coup, j'ai commencé ça très tôt. Et la première fois que j'ai fait, c'est une énorme déception. Parce que c'était un petit déj. C'était juste un petit déj avant que le soleil se lève, quoi. Et c'est tout. Et je me rappelle vraiment de la déception du truc, de me dire, putain, voilà. Donc, je crois que c'est les rituels à partir de là. Ça n'a jamais été trop bon truc.
Je ne suis plus trop pratiquant que très très rarement. Et voilà, je ne suis pas très catholique. Mais j'avais 12 ans. Je suis allé au petit séminaire et je ne m'entendais pas du tout avec les curés, hein, je vous le dis. Moi, voilà. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. J'étais dans une prison, je ne supportais pas ça. Moi, je viens d'ici, de la campagne, et bon, c'était le silence toute la journée. On avait droit à parler une demi-heure dans la cour. Tout était dans le silence. Tout était, à partir du moment qu'on se levait à 6 heures du matin, c'était la messe. C'était la messe tout le temps. Le soir, c'était ça. Et tout était dans le à l'époque où moi, j'ai été. Et j'étais un numéro... Ça, je ne supportais pas. Je n'avais plus de nom là-bas. J'étais le numéro 236. Moi, j'étais un lion et on me met dans une cage. Moi, ici, je vivais là, dans les bois. Enfin, je me retrouve, même dans un réfectoire, il y a une chaire de vérité avec un couillon qui est là au-dessus en train de te dire « Si tu pètes un mot, tu es dehors, tu ne manges pas, quoi. » Mais où est la religion là-dedans? Moi, à partir de là, il y a eu une certaine cassure. Et j'en ai toujours voulu à ma mère, je vous le dis. Ah si. J'étais très très malheureux. Ça, c'est une année de ma vie, je ne saurais jamais l'oublier. Jamais. Et ça, je pense que je suis encore un peu... perturbé de ça.
Maison de mes parents au Maroc. Et au dernier étage. Il y a 4 étages. Et on entend quelqu'un pleurer. Et on regarde dans la cage d'escalier et on voit un gamin qui pleure. C'est la nuit. Et on le voit. On a un peu peur parce qu'on est censé être tout seul dans la maison. Et on descend. Et il n'y a personne. On se recouche. Pareil. Et comme ça, 3 fois. Et on n'a jamais d'explication.
C'est un fantôme, c'est n'importe quoi. On a un drap de lit sur soi et on court dans une pièce dans le noir. C'est du n'importe quoi, ça. Et moi, je vais en parler. Ou j'aime pas trop, mais voilà. Moi, j'ai connu chez moi une entité. Et je l'ai payé très cher. Franchement, ça fait un calvaire pour moi pendant 10 années. Mais bon, voilà, ça c'est un épisode de ma vie très noir. Et je sais que les entités existent, ça y a aucun problème. Mais si je n'avais pas eu une personne pour la faire partir, je ne serais plus ici.
Enfin, les fantômes aussi, c'est... Ouais. C'est aussi des choses qui te hantent, toi.
Oh, bah c'était la radio, la télévision qui s'allumait toute seule, à fond, de la nuit, de la journée. Des portes que vous preniez en pleine figure alors que tout était fermé, il n'y a pas de courant d'air. Les lampes qui s'allument sans arrêt ou qui s'éteignent. Des bruits de voix partout. Oui, c'est assez troublant, hein, franchement. Oui.
Quelque chose qui m'avait fort frappé dans la lecture, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais c'était que quand tu prends de l'alcool, ça fait des trous dans ton aura et que là, des entités te pénétreront. Ouh là là, ça fait tilt chez moi parce que quand mon père buvait, je voyais bien que d'une façon ou d'une autre, c'était plus lui, mais tout son visage changeait. Sa bouche changeait, ses yeux changeaient, et c'était vraiment comme s'il était possédé.
J'ai envie de croire aux esprits, quoi. Il y a un truc dans les esprits, et ça, c'est par exemple les constellations familiales, elles donnent envie de croire à ça. Ou même quand j'avais fait une séance où un gars, alors c'est peut-être de la connerie, mais qu'il a communiqué avec une arrière-grand-tante qui aurait perdu un enfant, ou je sais pas quoi. Enfin, je me rappelle plus bien, mais. Et que. J'aime l'idée de croire à ça, en tout cas. Par exemple, j'aimerais bien communiquer avec ma grand-mère et je me dis que ça doit être possible, mais je sais pas trop comment. Mais j'aime l'idée de croire qu'il y a des esprits, des gens qui restent quelque part.
Une entité, c'est un esprit, c'est quelqu'un qui est parti, qui est ici, qui n'est pas sauvé.
Des esprits, c'est quelque chose qui... Ouais, qui... Ouais, de nouveau, culturellement... C'est quelque chose qui existe et qui est là. Et t'as quelques trucs à faire si c'est quelque chose que t'as l'impression que c'est quelque chose de malveillant. Ou voilà. Et c'est ce que la profession de foi, c'est ce qu'on appelle shahad en arabe. Et en gros, c'est que tu psalmodies quelque chose qui te protège, quoi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
Je vois ma foi comme être acceptée aussi d'être un peu dépossédée et de, au contraire, pas vouloir tout comprendre. Je pense qu'il ne s'agit pas de renoncer à comprendre, loin de là. La science a toute sa beauté, mais qu'il faut aussi accepter de ne pas tout comprendre et de faire confiance à Dieu. pour ça, c'est une grande chance d'avoir la foi, parce que je pense que c'est porteur. Et je peux que remercier Dieu de l'avoir. Et c'est, comme je disais, c'est vraiment de l'ordre du don. Parce que c'est porteur et ça permet de pas désespérer, parce que le monde est difficile. Il peut sembler absurde à bien des égards. Il y a une question qui est importante, c'est celle de l'abandon. Alors l'abandon, ça ne veut pas dire non plus ne plus rien faire et devenir léthargique sur son canapé, loin de là. Mais se dire, Seigneur, j'ai confiance en toi, je te remets ma vie et je sais que ce que tu feras de moi sera bon. Et j'en suis certaine, même si au final c'est quand même difficile de s'abandonner comme ça. Et donc, je sens de l'apaisement et aussi, je me sens aimée. Je pense que c'est le plus important, de se dire que vraiment Dieu nous aime et qu'il veut que nous bien, que notre bien.
Oui, vraiment, j'ai eu, je sais pas, c'est une illumination, mais j'ai deux filles. Quand j'ai accouché de ma deuxième, Morgane, j'ai vraiment voulu le faire consciemment. J'ai plus voulu aller dans un hôpital où un gynécologue me donnerait des ordres. J'ai dit, je vais gérer ça toute seule avec mon mari, avec une sage-femme. Je vais trouver un médecin qui était venu à la maison. Et là, j'ai vraiment compris qu'il y avait une force supérieure. Que si tu t'abandonnes à cette force, c'est pas s'abandonner. Si tu ne résistes pas, alors les choses sont plus fluides. Et là, quand j'ai besoin d'avoir de la force, je pense à ce moment où je pensais vraiment mourir, être déchirée, et je me souviens, j'ai dit, maintenant je peux mourir. Je me suis dit, maintenant je peux mourir. Et à ce moment-là, il y a une ouverture qui s'est faite. Et je suis allée une semaine à Huy, chez les moines bouddhistes, en fait. Et il y avait les enseignements, et ils disaient, si à 33 ans, tu n'as pas encore trouvé ta voie, alors... Bref, j'ai intériorisé que c'était grave. Et moi, je me suis dit, c'est quoi ma voie? Donc, je suis fort passionnée par le côté énergie, le côté matière, mais moi, mon enjeu, c'était plutôt comment faire pour bien rentrer dans mon corps et ne pas être fragmenté. C'est plutôt comme c'est plutôt là le chemin. J'ai eu un accident quand je roulais en voiture et j'ai eu un whiplash. Et j'ai eu très mal au cou, mais très, très, très mal. Et je me souviens, mon mari rentrait du magasin bio et me dit, tiens, c'est peut-être quelque chose pour toi. Et il avait une brochure de cours de shiatsu. Je ne savais vraiment pas de quoi il s'agissait, mais je voulais me dégager de cette douleur. Et en fait, sans le savoir, je m'étais inscrite à un cours pour devenir thérapeute en shiatsu. Mais j'arrivais là vraiment... Il parlait chakra, il parlait, énergie. Et pour moi, je me dis, ça y est, je suis tombée dans une secte. Et en faisant les points chez les autres, donc en massant les autres gens, c'est là que je me suis rendue compte comment j'étais dissociée de mon propre corps. Et c'est là que j'ai commencé par le corps, par le yoga... Je suis entrée dans un chemin, oui, de spiritualité via la respiration. Donc, je crois que j'ai un peu pris plic-ploc par-ci, par-là, toutes les choses qui me structurent, qui apportent de la poésie dans mon monde, et que c'est comme ça que je me suis quand même réapproprié mon corps. Mon corps, mes émotions, mes pensées. Parce que je pense que le corps, Oui, c'est le portail vers quelque chose de plus grand.
Sur la terre, au service et avec. J'ai rencontré une tradition qui travaille avec l'ayahuasca et là, c'est clair que j'ai effectivement rencontré Dieu. J'ai fait « T'es qui, toi ?» C'était assez magique, assez confrontant, parce que j'y croyais pas forcément plus que ça. Quand j'ai rencontré la première fois, je me suis battu beaucoup. Il y avait beaucoup de contraintes à l'intérieur de mon cerveau, de mon corps, de mes pensées. Ça bataillait entre cette croyance du bien, du mal, du ça existe pas, oui, non, des dualités. Et ça bataillait pas mal. Donc j'ai résisté beaucoup. Je voulais pas entendre, je voulais pas comprendre, je voulais pas voir. Après ça, je me suis dit, ils sont complètement dingues ces gens. Je vais plus jamais là-bas. Laisse tomber. Ça, c'était ma première cérémonie. Je me suis retrouvé à organiser une cérémonie parce que c'était prévu que ça soit entre personnes qui se connaissent. Et puis, quand tout ça a été mis en place et que j'ai bu la médecine ce soir-là, elle m'a posé une petite question comme ça, toute simple. Et alors, tu vas faire comment pour me dire non aujourd'hui ? J'ai pris un petit temps de réflexion. Je me suis dit, voilà, si je dis non, je suis quand même un beau crétin, quoi. Et j'ai fait, je vais dire oui, là, ce coup-ci, je vais dire oui, c'est vrai. Je vais le faire, je suis prêt. Et là, je me suis transformé en arbre. Pas réellement, évidemment, mais comme on ferait un voyage méditatif intense, j'ai les racines qui sont poussées dans le sol. Puis le tronc qui s'est élargi. Et le tronc était lié à mon propre corps et je me sentais grand, je me sentais fort. Et puis j'ai des branches qui sont poussées. Ces branches sont devenues des feuilles, des fleurs. Je me sentais comme un arbre, bien les pieds dans la terre, avec le sentiment d'être vraiment bien dans la terre. Que c'était ma maison là, dans la terre. Après, il m'a fallu 8 mois, je crois, pour rééquilibrer toutes les croyances que j'avais à l'intérieur et que j'avais pu confronter avec une autre réalité et faire le ménage là-dedans. Me dire, bon, allez, Gérald, ça, c'est obsolète, quoi. C'est con, ça sert à rien, ça marche pas. Fous-le à la poubelle. Et c'est pas toujours facile d'aller contre des structures, contre des croyances qui sont installés à l'intérieur de nous. On ne dit pas oui sans savoir qui, quoi, pourquoi, quelles sont les conditions du contrat. Et je me suis fait attraper. Ouais, j'aime bien le dire comme ça.
Je vis la spiritualité par procuration en voyant des gens qui croient et je m'approprie un peu leurs histoires. Mais du coup, j'ai l'impression que ça passe dans les expériences un peu... Il faut que je sois accompagnée et que c'est dans les expériences de médecine alternative, donc que ce soit pour moi de faire des constellations, des constellations familiales où tout d'un coup, c'est les énergies qui traversent et qu'il y a quelque chose qui parle qui est au-delà de nous. L'hypnose, enfin, c'est pas vraiment des croyances, mais en tout cas qui amène à d'autres états. J'ai pas fait beaucoup d'hypnose, j'ai fait une séance, mais où on te guide dans des choses qui sortent du réalisme, on va dire, je sais pas comment dire, de la réalité, quoi. Et là, j'ai fait l'expérience avec l'ayahuasca, donc qui t'emmène dans d'autres univers, et j'ai l'impression que c'est peut-être par ces biais-là que je peux, m'en étant accompagnée, que je peux dépasser cette réalité, quoi. Enfin, d'aller vers la spiritualité. Mais en fait, je comprends même pas ce que c'est que la spiritualité. J'ai pensé à l'ayahuasca parce que je me suis dit que ça ouvrait des portes de l'inconscient vers d'autres trucs et que peut-être c'était par ce biais-là que je pourrais accéder à d'autres états ou d'autres niveaux de conscience.
Je suis catholique, je le dis carrément, je suis croyant. Mais je m'entends pas... Enfin, je suis pas d'accord avec les curés. Vous n'êtes croyant, mais bon, plus je vieillis, plus je crois, en fait. Voilà. Et je ne sais pas vous expliquer, ça me vient comme ça. Moi, j'ai un saint, mon saint préféré, c'est Saint-Antoine. Peut-être... Je suis né sur l'égide de Saint-Antoine en 55. Le calendrier est là, je vais bien vous le montrer. Est-ce que c'est ça qui m'attire ou pas? Je n'en sais rien. Voilà, c'est comme ça. Moi, je lui demande tous les jours de m'accorder une sorte ou l'autre, même pour ma famille ou tout ça. Et je suis toujours récompensé dans ce sens-là. C'est mon saint, tous les jours. Je lui fais un petit coucou en me levant, et voilà. C'est comme ça. Il est toujours là. Oui. Et j'espère que c'est lui qui viendra me chercher le dernier jour. Et j'ai découvert Sainte-Rolande il y a peut-être 10 ans maintenant. Alors que je vais à la Sainte-Rolande depuis 40 ans. Hein. Mais on allait là plus pour boire une goutte, guindailler qu'autre chose. Voilà. Je pense qu'il m'aime bien, en fait. Je pense qu'il m'aime bien, les petits saints là-bas au-dessus.
J'étais il y a quelque temps avec mes petits-enfants. Je regardais les cygnes et d'autres oiseaux. Je crois que ça s'appelait Bernache du Canada ou Bernache, quelque chose comme ça, du Canada. Et d'un coup, j'étais un peu prise de désespoir. Je voyais ces espèces de canards qui mangeaient et en même temps qui déféquaient. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est ça la vie? Comme si c'était juste absorbé et rejeté. Et je me dis... La vie n'a d'autre sens que de la vivre. Mais qu'on peut chacun se raconter des histoires pour que ce soit la plus belle vie possible. Comme on peut aussi se raconter des histoires que la vie soit un fléau plutôt qu'un cadeau.
Tant que moi j'évolue, ma spiritualité évoluera. Ça fait partie de moi. Ça bouge en même temps que moi. Mais c'est pas quelque chose d'extérieur à moi. Ouais. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours un moment où je me reconnecte à ça. c'est dans des moments de solitude, dans des moments que je prends pour moi. Je sais pas si on peut appeler ça de la prière, mais où je parle à quelqu'un, mais je parle à moi. Je parle à moi en même temps de parler à quelqu'un. Pour moi, il y a quelque chose qui veille sur moi tout le temps. Et j'ai vraiment ce sentiment d'avoir une bonne étoile.
Souvent, le meilleur signe du changement, c'est les autres qui peuvent le voir. Alors, je vais prendre l'exemple de ma maman. Et un jour, je vais rendre visite à ma maman. Bah, c'est ma maman. Mais elle ne sait pas forcément tout ce que je fais dans ma vie. Et je vais lui rendre une simple visite et elle me pose des questions et je réponds très superficiellement comme on ferait parfois à sa maman quand on ne veut pas tout lui dire. Et elle continue de poser des questions, Et à un moment, je me dis, waouh, mais attends. Tu remarques pas que ta mère, elle sent quelque chose, et que toi, t'es là et tu veux pas lui partager. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Quelles sont tes transformations? Qu'est-ce qui t'a amené là? Et voilà, j'ai eu juste cette pensée-là qui m'a traversée et j'ai fait, bon, écoute, maman, voilà, je vais t'expliquer. Et je lui ai raconté tout ce que j'ai fait. Toutes les expériences, toutes les transformations. Et quand j'ai fini ma petite explication, un peu ce que je vous ai raconté là juste avant, elle m'a fait « Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose de différent. Je l'avais vu, je l'avais senti, mais je ne savais pas quoi. » Et après, elle m'a dit « Bah, tu sais, ce que tu as fait là, je veux le faire aussi. J'ai envie. Je veux vivre ces transformations-là aussi. » Et ma maman, elle a débarqué aux cérémonies. Ma maman, elle était la première personne à qui j'ai fait le cambo, moi, sur quelqu'un d'autre. C'était ma maman. Ma maman m'a acheté mon tambour. Mon premier tambour pour faire de la musique à mes cérémonies. Voilà, elle est devenue mon alliée. elle a pu prendre ce jour-là la place de mère dans toutes les dimensions possibles et imaginables. Et on a pu déposer peu de temps après tous les endroits de nos existences qu'on a partagés où on a eu des désaccords, des incompréhensions. Et on a pu pleurer beaucoup ensemble et on a pu s'aimer beaucoup, et encore aujourd'hui. Pour moi, c'est un bon exemple de transformation. Oui, ça marche.
Je voudrais vous témoigner que Dieu vous aime et qu'il est tendre et qui surtout qu'il ne met pas de pression. Ouais, il prend chacun là où il en est, chacun et chacune là où il en est, avec beaucoup d'indulgence.
Je crois, je suis sûr, j'ai la foi, et c'est juste pour moi. Je l'impose à personne. C'est mon monde. Et puis, ceux qui veulent partager mon monde, bienvenue.
J'aime bien les enseignements qui n'ont pas de dogme et qui te font entrer dans l'expérience pour que tu puisses toi-même produire des histoires qui vont t'aider pendant X temps et puis que tu vas peut-être transformer. J'aime bien cette notion de quelle histoire est-ce que je vais m'inventer aujourd'hui pour donner du sens à ma vie ? Et que de ça, on est responsable.
C'était Que tu crois, une réalisation radiophonique de Julie Michaud et Nora Elali. À la prise de son, Arnaud Ransom. Création musicale et mixage, Gilles Mortiot. Interprétation musicale, Ananta Rosens et Gilles Mortiot. Création du visuel, Nicolas Fong. Produit par Voa Productions, Marie-Beth Bez. Nous remercions chaleureusement Lulu, Daniel, Laetitia, Gérald, Pierre-Olivier, Mariette. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la CSR et le Fonds d'aide à la création radiophonique.
Gymnastique sonore, c'est fini pour cette semaine. Vous avez entendu Que tu crois, un documentaire de Julie Michaud et Nora Elali. Pour retrouver les archives de l'émission, rendez-vous sur canalb.fr. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.